Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut Maë Bérénice, est-ce que je peux t'appeler Maë?
Ouais, allons-y.
Les gens t'appellent comment?
Tout le monde m'appelle Maë.
Tout le monde t'appelle Maë. C'est très beau Maë, je trouve. Tes parents ont une très bonne intuition. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui, parce que déjà ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, et je t'ai redécouvert quand t'as commencé ta chaîne YouTube, et c'est vrai que ça a créé une espèce d'empathie, déjà parce que entre créateurs, souvent, il y a un petit côté à « on se comprend, on aime ça, tu vois, créer du contenu, on se met un petit peu à nu et on sait à quel point parfois ça peut être difficile. » Puis en même temps, bah, ça crée de l'empathie parce que j'ai l'impression de te connaître un peu mieux. Et du coup, je connais plus que Maë l'athlète, tu vois, que je voyais. Et enfin, parce que je suis très content parce que le patinage, c'est un sport que je connais très très peu. Et je sais qu'avec toi, on pourra le découdre et le recoudre dans tous les sens.
Exactement.
Toi, ça va?
Bah écoute, ça va super bien. Merci de m'accueillir et de m'avoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir, en tout cas pour moi, d'être là et de passer ce moment avec toi de découverte et où on va échanger, parler du patinage, mais pas que. Ouais. Et j'ai hâte de pouvoir en dire plus et de pouvoir développer un peu tout ça.
Ok. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Commençons. Je t'ai même pas prévenu, tiens, en intro, mais il y a une question qui est traditionnelle sur le podcast. C'est toujours la question avec laquelle j'introduis les interviews. Ah, tu me fais un oui de la tête, donc tu la connais. Ça me fait plaisir. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Mon premier souvenir de sport, ça a été lorsque j'étais à la maternelle. Ah non, même pas. Peut-être avant. Non, si, à la maternelle. À la maternelle, parce qu'on nous a emmenés à la patinoire. C'est comme ça que j'ai découvert le patinage. On nous a emmenés à la patinoire pour découvrir un peu toutes les activités physiques qu'il y avait à Vitry, parce qu'il y a plusieurs établissements sportifs. Et moi, mon premier souvenir sportif, c'est la sensation de liberté. Je peux faire ce que je veux, je peux tomber, me relever, patiner vite, sauter, courir, être libre finalement de mes mouvements. Et mon premier souvenir, ça va être ça. Un autre souvenir, c'est pas gagner. Parce que j'ai fait un cross à Vitry. Il y avait un cross qu'on faisait tous les ans.
Cross du collège?
Non, même pas du collège, l'école primaire.
D'accord.
Et on patinait, on nageait et on courait. Okay. Et donc du coup, bah, trois choses que j'aime plutôt bien faire.
Ouais.
Et ouais, je dirais la gagne.
La gagne? Est-ce que t'es bonne gagnante ou mauvaise perdante?
Très mauvaise perdante. Mais bon, j'ai appris à être bonne gagnante parce que c'est qu'il y a des choses à améliorer. C'est que ce jour-là, j'étais pas la meilleure et c'est OK. C'est pas la fin du monde. Donc, très mauvaise perdante, mais j'ai appris à être bonne gagnante. Enfin, okay. Bonne perdante aussi.
OK. Donc, si je comprends bien, à l'école, t'avais déjà, ou en tout cas jeune, t'avais déjà beaucoup d'aptitudes sportives. Bouger, sauter, c'était dans ta nature, déjà.
Totalement. Mes parents, d'ailleurs, m'ont demandé... En fait, mes parents, quand j'étais plus jeune, m'ont dit « Quel sport souhaites-tu faire ?» Parce que j'étais une fille très active. J'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. Des fois, eux, ils rentraient du travail. Ils disaient « Bon, allez, on va la garder pour la faire dormir. » Au final, c'est moi qui les regardais dormir parce que j'avais encore trop d'énergie. Donc, ils se sont dit « Ok, fais un sport. » Mais ils n'ont pas voulu m'imposer un sport. Ils m'ont demandé de choisir et j'ai choisi le patinage. Pour eux, c'était un choix un peu... C'est pas le premier sport qu'on dit, mais ils ont dit « Bon, ok, elle va faire du patin, on va l'inscrire. Ouais. » Mon père, il s'est dit « Allez, au bout de 3 mois, elle va avoir froid. » Après, elle va dire « Ça y est, c'est bon. » Bon, finalement, okay. 23 ans, bientôt 24 plus tard, on y est encore. Donc, c'est que le patinage m'a choisi, finalement.
Mais il fait froid quand même dans une patinoire.
Il fait froid, mais paradoxalement, vu qu'on bouge énormément... Bon, au début, oui, on a froid. Mais après, une fois qu'on bouge, en vrai, c'est le parfait équilibre pour moi. Je trouve la température de mon corps, elle s'équilibre bien. Et j'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid. Par contre, si on me dit aujourd'hui de faire un sport d'été, je ne sais pas si je pourrais supporter parce qu'il fait déjà chaud de base. Et en plus, quand on commence à s'activer et tout, franchement, chapeau. Je ne sais pas comment ils font.
Moi aussi, moi, je suis plutôt team froid, tu vois. Je viens du pays des Vikings.
Voilà, on est d'accord.
Donc, quand il fait 0 degré, je suis plus dans ma zone de confort.
Exactement.
C'est marrant parce que, tu vois, j'ai un cousin et a priori, tu vois, on a les mêmes gènes. Lui, c'est complètement l'inverse. Ouais, lui, c'est le chaud. Là. Lui, il se transpose, il adore quand il en nage. Tu vois, chacun son truc. Est-ce que tu as fait d'autres sports déjà, on va dire, où tu as fait un peu de compétition, un peu de...
Ouais, j'ai fait de la GRS à un moment. J'ai fait quelques compétitions à niveau régional, peut-être national, départemental. Je sais plus, mais en tout cas, j'ai fait de la compétition. Alors, on peut l'appeler comme on veut. J'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse moderne, de la danse de salon. Pas au niveau compétitif, mais en tout cas, j'en ai fait à un assez grand niveau pour avoir des bases dans différents sports où on combine le mouvement, la souplesse et l'élégance qui pourraient être complémentaires au patinage. Et après, j'ai pas fait de... C'est pas un sport, mais j'ai fait du violon aussi pour m'aider avec tout ce qui est musicalité. J'en ai fait un assez bon niveau aussi. Puis après, à un moment donné, il a quand même fallu choisir et se recentrer. Ouais. Donc après, j'ai arrêté au fur et à mesure, mais j'en ai quand même pratiqué pendant assez longtemps.
Ok. J'ai une question qui me vient, tu vois, c'est... T'es né à Vitry, c'est ça ?
Je suis né à Paris dans le 14e, mais j'ai grandi à Vitry.
Ah oui, ok. J'ai vécu à Ivry-sur-Seine, donc je connais...
Ah, on est voisins.
je connais très bien. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est facile d'avoir des rôles modèles ? Tu vois, moi, j'ai grandi à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois et à Ivry-sur-Seine. On va dire, mon éducation, elle a un peu suivi le niveau de revenus de mes parents. Et j'ai eu de la chance que mes parents ont beaucoup travaillé dans la vie et je vois un gros changement entre ma primaire et mon lycée. Primaire, j'étais vraiment, même avant, j'étais vraiment dans des écoles très populaires, avec pas toujours des comportements qui tirent vers le haut. Moi, j'aime bien cette ambiance un peu, parfois un peu chaotique. Mais un souvenir que j'en avais, c'est que c'était difficile de trouver des rôles modèles. Et je me demande pour toi, tu vois, quand tu patines, est-ce que déjà il y a des rôles modèles sur la glace, à l'école ? Où est-ce que tu es allé les chercher, toi, tes rôles modèles ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Pour moi, en fait, le patin, ça a toujours été un jeu. Dès que j'ai commencé jusqu'à 16 ans, 17 ans, pour moi, ça a été un jeu. En fait, je me lançais des défis personnels. Je me suis dit, OK, c'est trop cool, j'ai réussi à avoir ce saut, donc la prochaine fois, je vais avoir ce saut. On a été un groupe de patineuses, patineurs. On a évolué ensemble. Donc, du coup, il y avait l'émulation de groupe qui nous permettait de... oh, elle a fait ce saut, vas-y, il faut que nous aussi, on y arrive. Et en fait, c'était une émulation, mais saine, dans le sens où, oui, on était compétitives et compétitifs, mais aussi, on s'encourageait les uns les autres, on était contents de voir les autres réussir. Et du coup, ça, c'est un environnement qui m'a beaucoup porté. Et moi, j'ai jamais réellement cherché à avoir un role model qui va me dire « Ok, il faut que je sois comme cette personne, en tout cas dans le patin. » C'était plus « Je veux voir jusqu'où je peux repousser mes limites. » Je pense que j'étais ma meilleure motivation, si je puis dire. Je me suis dit « Ok, j'ai réussi à faire ça. Comment je peux réussir à faire mieux ?» Et c'est comme ça que j'ai un peu évolué dans le patin. Et c'est vrai qu'en grandissant, forcément, en voyant d'autres athlètes internationaux, en voyant des athlètes qui faisaient des records, qui faisaient des sauts qui n'avaient jamais été faits avant, bien sûr, je m'inspirais de ça. Mais aujourd'hui, moi, je m'inspire de tout le monde. Je trouve que tout le monde a quelque chose à apporter et tout le monde a ce petit truc unique qui fait que, ah, OK, Ça, ça peut être intéressant de... Ok, je m'inspire de toi. Je m'inspire de toi pour tes lignes. Je m'inspire de toi parce que tu as une bonne technique. Je m'inspire de toi parce que tu as une belle expression. Et en fait, pour moi, chaque patineur ou chaque personne, finalement, a quelque chose à apporter. Donc, je n'ai pas un rôle modèle. Pour moi, le monde est un rôle modèle. Même des enfants plus jeunes que moi qui n'ont pas forcément mon expérience, on peut toujours apprendre d'eux. Donc, au niveau du patin, ça a toujours été ça, mon leitmotiv, et toujours jusqu'à aujourd'hui. À l'école, je pense que mes plus grands modèles, ça a été mes parents. Parce que ma mère, elle a fait des études, elle est ingénieure informatique. Mon père, ça a été dans biochimie, si je ne dis pas de bêtises. Et déjà, dès le plus jeune âge, je me suis toujours dit, moi, je veux avoir au moins un master comme ma mère. Ça, ça a toujours été ancré dans ma tête et je ne m'en suis pas défaite jusqu'à ce que j'y arrive. Et pour mes parents, la culture du sport, la culture artistique, c'était très important. Mais l'éducation, c'était tout aussi important. Donc, ils m'ont dit, tu peux faire ce que tu veux à côté, il n'y a pas de souci. Tant qu'à l'école, ça suit. Tu nous ramènes parce que les diplômes, ils seront toujours là. Ils vont toujours t'accompagner et ils te serviront toujours. Le patin, c'est cool, mais ça dure un temps. On n'est jamais à l'abri d'une blessure. On touche du bois, mais sait-on jamais. Donc, ils m'ont toujours poussé à aller vers l'excellence dans tout ce que je faisais, que ce soit dans la vie, dans le patin ou dans les études. Si je commence quelque chose, je le finis. Si j'ai plus envie de le faire, bah, au moins, je vais jusqu'à la fin de la saison, de la période donnée. Mais ils m'ont toujours inculqué voilà, ces valeurs d'excellence de par leur parcours personnel, de par leurs valeurs qu'ils m'ont transmises. Et je pense que ça a toujours été ancré en moi, finalement. Et ouais, je pense que c'est mes plus grands modèles.
Ok. Ouais, donc il y avait avec cette culture de l'excellence, quoi. Et de toujours donner... Comment ça s'est traduit chez tes parents, eux, cette culture de l'excellence ?
Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Parce qu'ils sont venus faire leurs études supérieures en France. Donc ça veut dire qu'ils ont quitté leur famille, leur cocon, leur environnement, tout ce qu'ils connaissaient, pour pouvoir poursuivre un rêve, pour pouvoir offrir de meilleures perspectives, de plus grandes perspectives pour leurs enfants, enfin pour les enfants qu'ils auraient voulu avoir après. En l'occurrence, bon, je suis toute seule, mais bon, voilà, pour m'offrir une vie qui soit peut-être meilleure que ce qu'ils ont pu connaître. D'autres opportunités aussi. Je les voyais au travail. Ils ont fait des sacrifices par rapport au travail qu'ils ont pu avoir aussi, qui ne correspondent pas forcément aux études qu'ils ont pu faire, juste pour qu'ils puissent être là pour moi, pour m'accompagner dans le patin, pour me permettre d'aller faire les stages que j'avais besoin de faire les étés, sacrifier leurs vacances pour que bah, je puisse aller patiner avec tel coach qui va être présent 2 semaines en Andorre ou en Espagne. Ma mère qui travaillait la nuit pour que la journée puisse être présente pour m'accompagner partout où j'avais besoin d'être. Donc, ils ont toujours fait en sorte que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les résultats que je voulais atteindre. Et pour moi, l'excellence, ça passe par ça aussi, savoir faire des sacrifices là où il faut pour pouvoir atteindre un objectif, savoir s'investir dans un projet, croire en un projet et se donner les moyens pour y arriver.
Ouais, ok. Quelles sont des bonnes valeurs, tout ça. À quel moment le patin, ça devient quelque chose de sérieux pour toi ?
Je pense que ça a toujours été quelque chose de sérieux mais fun, dans le sens où quand je commence quelque chose, par contre, je vais jusqu'au bout. Donc, j'ai commencé le patin. Si j'étais au championnat de France, ma prochaine étape, c'est les compétitions internationales. Après, c'est championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, j'ai dit, moi, je veux faire mon top 10. J'ai mis en place les choses pour être dans le top 10. Donc, ça a toujours été quelque chose de sérieux, mais j'ai toujours su le garder fun. Et je pense qu'il y avait aussi l'insouciance de la jeunesse, de la découverte. Tu te dis, oh, c'est mes premiers Jeux, c'est mes premiers championnats d'Europe. Vas-y, je vais y aller à fond et tout. Mais là où c'est réellement devenu sérieux, c'est quand j'ai compris que... tu remets les choses en jeu, quand tu as été championne de France et que tu remets ton titre en jeu, quand tu as déjà été au championnat d'Europe et qu'il faut que tu fasses un meilleur résultat, que tu te rapproches du podium, voire même que tu montes sur le podium, c'est là où on se rend compte de la pression, de l'enjeu, de ce que c'est que d'être finalement la personne à abattre, entre guillemets, parce que si tu es la première, les gens veulent prendre ta place. Et c'est autre chose de vouloir prendre la place de quelqu'un, mais c'est un autre travail à faire que d'y rester et de continuer de s'améliorer constamment. Et je pense qu'à partir du moment, après 2014, après les Jeux de Sochi, je pense que c'est là où j'ai réellement compris ce que c'était qu'être un athlète, enfin une athlète de haut niveau.
Après tes premiers Jeux.
Ouais, parce qu'avant c'était plus, moi je suis juste là pour faire mon travail, enfin je suis là pour m'amuser, pour découvrir, c'est l'expérience, je prends de l'expérience, je prends en maturité.
Ouais.
Et après c'était, ok donc là, faut que je fasse mieux, que je m'améliore. Que je construise quelque chose de différent, d'unique. Ok, c'est différent.
Ok. Est-ce que tu considères... Enfin, tu vois, moi, en lisant ton parcours, je me dis... Tout a été... Enfin, j'ai l'impression que tout était lisse, presque facile. Et est-ce que ces jeux-là que tu te dis, ah, ok, à partir de maintenant, il faut bosser, c'est pas forcément l'atteinte d'un plafond de verre, mais tu vois, c'est justement le talent et le fun ne suffit plus, tu vois.
C'est ça. Le talent et le fun, ça suffit plus. Et c'est surtout que j'avais pas la maturité nécessaire pour prendre soin de mon corps. J'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Parce qu'après 2014, jusqu'alors, je m'étais pas blessée. C'était entre guillemets facile de gagner, dans le sens où j'avais un avantage concurrentiel, machin. Après Sochi, j'ai découvert ce que c'était que la
course. Un avantage concurrentiel, tu considères ?
Dans le sens où, techniquement, j'avais des facilités et des aptitudes depuis très jeune. Donc du coup, j'avais, entre guillemets, un coup d'avance par rapport aux autres. Et donc, je me reposais pas sur mes acquis, parce qu'à l'entraînement, je travaillais énormément. Mais je me reposais sur mes acquis dans le sens où j'allais pas forcément chercher à développer d'autres avantages concurrentiels, qui peuvent être dans des petits détails, qui, eux, vont permettre de faire la différence quand on est toutes au même pied d'égalité.
Ouais.
Et c'est ce qui m'a rattrapée par la suite, parce que du coup après Sochi j'ai été blessée pour diverses raisons, et notamment parce qu'on sait que si quand on est un athlète et qu'on est blessé, quand on s'arrête, en général il y a forte chance qu'on perde des accès à certaines aides, etc. Donc du coup on prend pas forcément le temps de repos qu'on doit prendre. On traîne des blessures sur des années, alors que si on avait pris le temps de se soigner, on serait venu encore plus fort et plus rapidement. Donc du coup, je me suis entraînée, j'ai patiné, j'ai fait des compétitions la première année à 90%, puis après à 70%, puis après 60%, 50%. La concurrence mondiale, elle a continué d'augmenter, de s'améliorer, de travailler sur les détails sur lesquels moi je ne travaillais plus, parce que j'essayais juste de sauver les meubles. Et au bout d'un moment, je me suis pris une gifle dans la tête, littérale, en 2016, où j'ai compris que là, le talent, le fun, ça suffit plus, et qu'il faut aller développer d'autres éléments pour pouvoir prétendre à revenir dans le top mondial. Et c'est là le début de la descente aux enfers.
La descente aux enfers, carrément ?
C'était compliqué. Compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête quand on a été aussi loin, quand on a touché un peu, on s'est rapproché des podiums européens, top 10 européens, mondial et olympique, c'est qu'il y a du potentiel. Et du jour au lendemain, de se voir retrouver éliminé, pas passer la finale des programmes, enfin, pas passer le programme court après le championnat du monde, alors que l'année d'avant, on était dans le top 10, ça fait mal quand même. Ça fait du bien aussi, parce que du coup, l'ego, il en prend un coup. Peut-être qu'il en avait besoin aussi, de se dire que c'est pas acquis.
Tu penses que c'est nécessaire un peu de se prendre ses gifles pour travailler justement sur son ego ?
Ça, c'est nécessaire dans le sens où, en fait, des fois, on se rend même pas compte qu'on a un ego. Il y a des enseignements qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'était pas passé par ces moments-là. Et ça nous permet aussi peut-être d'apprécier un peu plus le cheminement, d'apprécier un peu plus le moment présent et d'apprécier encore plus nos victoires. Parce que du coup, on a été tellement bas des fois que quand on arrive à remonter cette pente, même si pour les regards extérieurs, ils se disent « ouais, bon, bof, c'est pas si ouf », pour nous, ça a une plus grande signification. Mais des fois, il faut se prendre des gifles pour se remettre dans le droit chemin et pour comprendre que là, on fonce droit dans le mur si on continue.
Ouais. Est-ce que hormis, tu vois, ces résultats qui sont pas bons, il y a d'autres conséquences dans ta vie, sur ton moral ?
Psychologiquement, des fois, je me retrouve un peu seule, dans un trou un peu noir. On peut dire que je pense qu'il y a eu des phases dépressives, des phases où on se demande ce qu'on fait là, quoi. Des phases un peu deep. Puis après, être bien entouré, ça aide, parce que ça permet d'en sortir. Mais ouais, il y a eu des phases compliquées psychologiquement, physiquement. On passe par des phases de... On s'alimente plus forcément bien. On a des phases... On mange trop. Ça se traduit par un peu tout. Le corps aussi qui réagit, finalement. Des inflammations qu'on peut avoir. Des fois, on se dit, ouais, bon, voilà. Mais des fois, ça peut être des maux qu'on a internalisé, des choses qu'on n'a pas forcément dites et qui s'expriment de cette façon-là, qui vont aller titiller le corps et dire « Là, prends soin de moi, s'il te plaît. »
Je veux bien qu'on reparle après, juste après, des symptômes ou peut-être de ce que tu as ressenti dans ce qui a été dur, mais avant, j'aimerais comprendre, parce qu'on est allé un peu vite là. On est allé un peu vite. Quels sont selon toi les ingrédients qui ont fait que tu en es arrivé là ? Parce que je te le répète, mais quand on voit ton parcours effectivement jusque-là, quand on voit les articles de presse à l'époque, bah Maë, c'est la future championne. Alors, on compare aussi beaucoup avec Madame Bonali, qu'on salue, qu'on embrasse. Mais on voit, je sais pas, l'athlète parfaite, en fait, tu vois. Donc, quand je t'entends, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas un résultat, tu vois, et un mauvais résultat ou une blessure qui peut faire tomber le château de cartes, tu vois. Donc, c'était quoi les ingrédients avec le recul que t'as ?
C'est que on est dans un sport où on cherche l'excellence. Et je m'interdisais de faire des erreurs. Et où on nous réprimait quand on faisait des erreurs. Les erreurs, ça peut être des résultats qui sont pas forcément ceux qu'on attendait. Ça peut être beaucoup de pression par rapport à mon poids, par rapport à la façon, enfin, ce à quoi je ressemble sur la glace, parce que c'est un sport, une discipline d'expression où le visuel, le physique, voilà, ça rentre aussi en jeu dans la note finale. Et je me suis mis beaucoup de pression. Déjà, de base, je suis une personne qui met beaucoup de pression parce que si je me fixe des objectifs assez pointus, forcément, je vais me donner les moyens. Donc, je me donne corps et âme, vraiment. Je fais tout ce qui est possible, sur la glace, en dehors. En tout cas, tout ce que je pense qu'il faut que je fasse pour continuer d'être la meilleure. Je dois toujours prouver aussi, constamment. Même si j'ai déjà prouvé auparavant, je dois toujours continuer de prouver. Prouver que je suis quand même bonne, que je suis quand même la meilleure, que je reste la meilleure. Et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd de toujours être, avoir cette pression de « Ouais, on sait que tu peux faire, mais tu vois, il y a cette personne qui est mieux. Donc peut-être qu'on va plus privilégier cette personne que toi. » Donc ça veut dire que moi, il faut que j'aille chercher, puiser les ressources nécessaires en étant blessée pour aller parfait, pour aller leur montrer que si, vous pouvez encore compter sur moi. Et en fait, j'avais l'impression de toujours courir après the approval, l'approbation des autres, être confirmée dans le sens que oui, je suis toujours la championne, m'oubliez pas s'il vous plaît. Je pense que j'étais un peu dans ça. J'avais peur que, qu'on me dise ouais, ça y est, c'est bon, merci, next.
Merci beaucoup d'en parler, de ce sujet-là, parce que donc tu vois, ça fait 4 ans qu'Extraterrain existe et j'avais jamais réussi à le formuler ou l'aborder vraiment en profondeur, tu vois, avec d'autres athlètes qui, je sens aussi, en ont vécu et en même temps aussi, il y en a peut-être qui l'ont beaucoup, beaucoup enfoui, tu vois. Enfin, je pense que beaucoup l'enfouissent parce que ça fait partie. En fait, c'est tellement normal pour vous d'être en permanence en comparaison. Et je pense que c'est dommage d'ailleurs dans le sport, c'est qu'il y a des athlètes qui pourraient se réveiller beaucoup plus tard si en fait jeunes, on les confrontait pas au regard des autres, à la comparaison permanente, tu vois. Et je pense que c'est un des trucs les plus durs qui existent dans le sport, c'est que il y a une ou deux sélections en équipe de France, t'as un podium, t'as une compétition par an. Enfin, je résume, mais c'est t'es là ou t'es pas là, quoi. Et c'est cette pression permanente qu'on peut te rayer de la carte, quoi.
Mais du jour au lendemain, ouais, il y a une épée de Damoclès sur notre tête. Et puis on se dit, bah, si je fais pas le résultat, est-ce que demain, on va pas me dire, bon, bah écoute, t'as pas été performante, je vois pas pourquoi on te garderait. C'est en même temps, c'est compréhensible parce que forcément, quand on est sportif de haut niveau, notre métier, c'est de délivrer de l'excellence. Donc, d'un côté, je comprends, mais de l'autre côté, si on pouvait développer une psychologie autour de ça qui soit un peu différente. Par exemple, quand il y a un échec, aller comprendre la source de l'échec au lieu de nous taper sur les doigts. Parce que, croyez-moi, bon, après, tous les athlètes sont différents, mais je pense que la plupart des athlètes, quand on échoue, déjà, on a un peu ce sentiment de honte, de se dire « Oh, waouh, j'ai travaillé tout ce temps, et j'ai produit, pardonnez-moi l'expression, mais cette merde, c'est pas possible. » Et là, on se pose mille et une questions. On se remet en question. Est-ce que je dois continuer? Pourquoi je fais ça? Enfin, en tout cas, moi, j'en suis arrivée à un moment où ouais, je remettais toute ma vie en question. Est-ce que j'en vaux encore la peine? Mais je suis nulle, en fait. Je vaux rien. Est-ce qu'ils vont continuer de m'aimer? Est-ce que si je suis plus une championne et que j'arrive plus à rapporter de médailles, quel est l'intérêt? On se pose vraiment des questions existentielles. Alors que maintenant, si je rate une compétition, si je peux reprendre l'exemple de la saison dernière, j'ai repris après ma blessure. Première compétition, j'avais jamais eu un score aussi bas de ma vie depuis des années. Le score total, c'était le score que je faisais sur le programme long à une époque. Bon, bien sûr, j'ai pleuré parce que je suis quand même une compétitrice dans l'âme, donc je vais pas me contenter de ça. Je vais pas dire que ça c'est bien, c'est ma base. Non, j'ai conscience que c'est pas du tout mon niveau. J'ai pleuré 2 secondes. Après, je me suis assise, j'ai pris la feuille de résultats et j'ai analysé. J'ai dit, ok, donc ça, c'est ce que j'ai fait de bien, ça, c'est ce que j'ai fait de moins bien. Là, j'ai perdu des niveaux, là, j'ai eu des moins, j'essaie de comprendre pourquoi. Je regarde la vidéo, j'analyse. Ok, donc là, la courbe, je l'ai mal prise, là, la sensation, elle était comme ça. Là, je me suis sentie fatiguée à tel moment du programme. J'ai analysé. J'ai dit, ok, donc pour mes entraînements, qu'est-ce que je vais mettre en place pour la compétition qui avait lieu la semaine d'après? Peut-être que là, il faut que je simplifie mon programme, peut-être que là, il faut que je change. Là, je suis dans la, je suis proactive, je suis maître de mon projet, en fait. Et je suis pas en... on n'est pas en mode en train de me dire, oh mon Dieu, mais ma chérie, t'es nulle. Et l'équipe que j'ai construite autour de moi, elle est dans cette même dynamique. Et pourtant, eux aussi, ça les impacte. Parce que c'est un reflet de l'entraînement qu'ils ont pu me donner. Une fille qui fait 123 points au total, alors, ou 107, je ne sais plus. Alors que d'habitude, c'est le score d'un programme long. Bah, eux aussi, ça les impacte finalement. Mais ils ont été là. Ils ont eu des mots de soutien. Ils m'ont dit, ok, on a vu ce qui s'est passé, on va faire ça, 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 ça. On va mettre ça en place. Peut-être qu'il faut changer ça. On était dans cette dynamique-là. La compétition d'après, plus 20 ou 30 points. C'était la semaine d'après. Et la compétition encore après, on a vu l'évolution. Puis on a encore vu l'évolution. Au Grand Prix de France, j'étais la première Française sur les trois qui étaient engagées, avec un score qui commençait à se rapprocher de ce qu'on espère, de ce qu'on attend. Mais ça, c'est parce que la première compétition, on a été intelligent dans la façon de l'aborder. Mais il y a quelques années, j'aurais fait ça. Je ne sais même pas où je me serais retrouvée psychologiquement. Parce que je me serais mis mes 20 000 pieds sous terre. J'aurais eu honte. Et la honte, elle était là quand même. Parce que je me suis dit, c'est pas ce que j'ai l'habitude de montrer. Mais en même temps, j'ai dit, oui, mais je viens de... J'ai traversé ça et je sais pourquoi je le fais. Et je sais pourquoi on est venu à cette compétition. On a dit que cette saison, ça allait être dur parce qu'on l'a construit comme ça. Donc, mets ton ego de côté.
T'as une maturité par rapport, effectivement, à ce cycle de progression. Exactement. Que t'avais pas à l'époque. Quoi.
Exactement. Okay. J'ai mis mon ego de côté pour construire quelque chose de solide et sur la durée. Et pas juste sur le moment.
C'est pas facile, effectivement, tu vois, étant jeune, à comprendre aussi que tu peux pas être top niveau tout le temps et qu'il faut accepter de, ouais, de baisser et que ça fait partie, en fait, du cycle, quoi, normal. Moi, je viens plus des sports, tu vois, d'endurance et que ce soit en course à pied, en triathlon, c'est normal après un moment. Enfin, t'as les pics de forme, tu t'optimises pour ça, quoi.
C'est ça. Et je me dis, ça, les plus jeunes peuvent le comprendre s'ils ont aussi un écosystème qui est construit comme ça et qui est pensé comme ça. Parce que nous, quand on était plus jeunes aussi, on avait la hantise de dire qu'on était blessé, qu'on ne se sentait pas bien, qu'on n'était pas bien. Parce que quelles vont être les répercussions? Si je dis que je suis blessé, bah, ça se trouve, bah, ma sélection, elle va sauter. Si je dis que je ne me sens pas bien, je vais me faire engueuler parce que je ne me sens pas bien. Alors, il faut que je pousse. Mais des fois, c'est là où on nous pousse, on peut être poussé vers la blessure, vers le truc qui, pour le coup, va vraiment, peut être un élément qui va terminer la carrière. Et je me dis aussi que c'est plusieurs facteurs aussi. C'est un mindset. C'est pas juste... ouais, c'est une façon d'être, une façon de vivre. C'est pas juste, privilégier la partie performance. Parce que dans la performance, pour moi, il y a le mindset, il y a l'accompagnement, il y a les ressources qui vont être mises à disposition. Et tout ça, c'est des éléments qui, avant, n'étaient pas mis en symbiose pour pouvoir permettre cette réflexion.
Ok. J'ai une question que je voulais te poser, c'est est-ce que... je ne fais pas de la psychologie de comptoir. J'essaye de ne pas analyser mes invités. Mais parmi les athlètes de haut niveau, il y a quand même beaucoup... Tu connais le profil... tu connais le test Ennéagramme? C'est un test de personnalité. Beaucoup d'athlètes de haut niveau ont le profil 3, qui est le profil performeur. Et un des gros dangers, en fait, si tu veux, du profil performeur, c'est que tu performes notamment, généralement, pour un écosystème qui est le tien, selon des valeurs qui ne sont pas toujours les tiennes. Et du coup, tu peux t'abandonner, en fait, à aller performer dans quelque chose qui n'est pas vraiment toi, tu vois. Et donc, tu t'y abandonnes, tu vois un peu là où je te mène. Donc, dans ce que tu dis, effectivement, je ne dis pas que tu es un profil 3 Ennéagramme ou quoi, ou ça ne me regarde pas, mais qu'en tout cas, il y a peut-être des éléments de réponse que tu peux trouver à travers ça. Mais du coup, la question que je voulais te poser, c'est quelle est la part de Maë se met trop la pression, toute seule? Et Maë n'est peut-être pas accompagnée parce qu'elle a 20 ans, 22 ans, sur des sujets de psychologie qui sont sur lesquels il faut se décharger, en fait. Et quelle est la part de l'écosystème? Et quand je dis l'écosystème, c'est un sport de glace, avec du jugement, un sport avec beaucoup de tradition, un sport très européen, je le dis, beaucoup d'autres choses, peut-être que je vois pas, tu vois, mais en tout cas, un écosystème qui est quand même hyper particulier, quoi. Et moi, que j'ai toujours vu, j'ai toujours vu les sports de jugement comme des sports encore plus durs, psychologiquement. Donc c'est un peu la question que je voulais te poser. Quelle est la part entre les deux? Et en fait, à quel point l'écosystème, il est dur, parce que je ne le connais pas.
Ça, c'est une très, très bonne question. Pour moi, chaque sphère que tu as citée va jouer un rôle et aura une influence sur finalement l'évolution de l'athlète et l'influence, l'impact que ça peut avoir sur nous. Dans la partie sport à jugement, malheureusement, ça a une bien trop grosse influence sur les athlètes. Parce que, en discutant avec plein de patineurs qui ont fait les Jeux Olympiques, qui n'ont pas forcément fait les Jeux Olympiques, qui sont arrêtés au niveau départemental, régional, national, on rencontre tous le même problème. C'est qu'on base notre valeur sur le regard des autres. Parce que du coup, en patin, ton classement, il est basé sur ce que les juges vont voir et sur ce que tu auras fait dans le programme. Notre valeur, elle va être... Enfin, ouais, pour certaines personnes, la valeur, ça va être par le physique. Parce que du coup, on va dire, ah, mais elle, regarde, elle a le corps parfait de la patineuse. Elle ressemble vraiment, c'est ça. On veut que tu ressembles à ça. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Donc, on fait comment? J'ai pas la couleur de peau, j'ai pas forcément le morphotype. Et c'est pas quelque chose que je peux changer. À part m'enlever un os, je vois pas comment on peut y arriver. Donc, on fait comment? Donc, il y a le jugement, c'est des trucs très subtils parce que ça va être une sorte de... En fait, c'est quelque chose, on se rend même pas compte. Pour nous, c'est naturel, enfin, c'est normal parce que c'est comme ça. Enfin, c'est un code, un non-dit, mais c'est comme ça. On va arriver dans une patinoire, on va sentir les regards qui vont scanner de haut en bas. En fonction, tu sais que... Enfin, si tu sais que tu reviens de vacances et que tu t'es un peu amusé, tu sais qu'on va te scanner, on va dire 5 kilos en trop, là. Ils ont même pas besoin de parler, juste les regards, en fait. Ou alors... Tu vas arriver avec un corps différent, une musculature différente. Ouh, c'est pas très patinage, ça. C'est plus, je sais pas, un autre sport, mais pas patinage. C'est pas assez artistique. C'est pas assez fluide. C'est pas assez comme on veut.
Les coachs aussi, ils parlent comme ça?
Oui. Oui, oui. Il y a certains coachs qui... En fait, le problème, c'est que les coachs ont eu des traumatismes eux-mêmes qui n'ont pas été soignés. Et du coup...
Oui, en fait, c'est logique, oui. Donc,
le cercle, il continue. Ils sont au courant. Parce qu'eux-mêmes ont vécu ça. Mais si on fait pas le travail sur soi, malheureusement, ce qu'on a le plus détesté, on peut le transmettre à ses élèves. Donc il y a aussi ça aussi. Prendre soin aussi de l'écosystème, finalement. Parce que si c'est des traumatismes qu'eux-mêmes n'ont pas soignés, mais qu'ils les transmettent, c'est compliqué. C'est un cycle qui se répète. Et ils n'en ont pas forcément conscience. C'est une pression psychologique qu'on reçoit tous les jours, constamment. Et c'est lourd. Donc, il y a ça qui va influer. Après, il y a quelle autre partie? Je ne sais plus quel écosystème tu m'avais dit. Il y a la partie jugement. Il y a la partie les attentes aussi de la fédération ou des institutions. Parce qu'il y a les résultats, il faut faire les médailles. Enfin, c'est ça qui va retranscrire le rayonnement du pays. Si on fait les médailles, si on fait les podiums. Et encore, podium, bon, c'est cool, mais on veut plutôt la médaille d'or. Après, il faut y arriver. Enfin, faut s'entourer de personnes qui pourront nous aider à atteindre ce niveau. Et moi, j'ai fait le choix de m'entourer de personnes avec lesquelles je travaille psychologiquement. Parce que pour le coup, oui, j'ai besoin de me décharger à ce niveau-là. Il y a des choses que je peux pas... ou que mes parents, mes coachs, la fédération pourra pas comprendre. Mais une personne qui a travaillé pour et qui a les outils pour pourra peut-être débloquer des portes qui me permettront aussi de continuer à évoluer et de pas rester dans un cercle, de m'enfermer dans quelque chose qui... pourra peut-être contribuer à bloquer tout ce qui aurait pu être fait si j'avais libéré la parole ou quoi. Donc c'est une cellule à prendre en compte dans l'équation qui permet d'aider. Et je pense que j'en oublie.
Non, mais ça nous reviendra, tu vois. Moi, je voulais te poser la question parce que j'ai eu une des conversations qui m'a le plus marqué sur Extraterrien. C'était avec une fille qui s'appelle Laura Auger et une superbe femme, géniale, natation synchronisée, ouais, qui a fait les Jeux, qui a été sixième, il me semble, à Rio. Et en fait, dans la conversation qu'on avait eue, elle m'a dit « Je savais, à cause de la forme de mes jambes, que je ne serais jamais championne olympique. Je ne serais jamais sur un podium, sur une compétition mondiale. Parce que dans ma morpho-anatomie, en fait... je correspond pas aux critères de beauté du sport. Moi, j'ai jamais fait de sport de jugement, donc forcément, quand j'entends ça, je prends une claque, tu vois, de te dire comment est-ce que tu peux faire un sport quand même quand t'es athlète de haut niveau, t'as un goût pour la gagne, tu l'as dit, mais que t'es un peu condamné à ne jamais gagner, tu vois. Est-ce que toi, t'as ressenti ce type d'émotion par moment?
Moi, c'est plus... je sais qu'on pardonnera pas l'erreur. Une chute, moi, elle va me coûter beaucoup plus cher que pour d'autres. Ça, je le sais. Par contre, si je fais clean, il n'y aura pas de discussion. Une erreur, je ne m'attends pas à ce qu'on me fasse de cadeau. Maintenant, je sais que c'est vrai. Enfin, ce qu'elle dit, ça ne m'étonne pas, ça me parle même. Mais après, moi, j'aime bien le défi. Donc, on peut me dire, tu n'y arriveras pas ou tu ne le feras pas. OK, we'll see.
Comment est-ce qu'on le transforme en force ?
C'est un mindset, c'est une question de mindset, je pense. Se dire que... croire en soi, déjà. Parce que, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur, athlète ou quoi, pas toujours les gens vont être derrière nous à croire en notre projet. Parce que ça peut être fou, parce que ça peut paraître impossible. Parce qu'on a des croyances limitantes, ou d'autres personnes vont avoir des croyances limitantes, et du coup, ils vont les retranscrire sur nos rêves à nous. Donc, ouais, se donner les moyens d'y arriver, croire en son rêve, se discipliner, c'est, je pense, la partie la plus compliquée. Et aller chercher les ressources nécessaires. S'il faut utiliser le système D, on utilise le système D jusqu'à ce qu'on puisse mettre des moyens un peu plus conséquents. Mais se donner les moyens d'y arriver, pour moi, il n'y a rien qui est impossible si on y croit. Mais d'abord, faut que ça commence par soi. Y croire et être convaincu de son projet. Avoir une vision très claire et précise de ce qu'on veut faire. Mettre en place un plan d'action, comme un business plan finalement. Et après, y aller aussi au culot, hein, parce que des fois, c'est juste ça.
Bien sûr, bien sûr. Quel conseil tu pourrais donner si demain, ta petite sœur, ta petite cousine, elle a envie de se lancer dans une carrière ? Peut-être qu'elle ne doute pas encore de comme toi. Toi, je crois qu'à 15 ans, t'as déjà tes premières médailles, je crois, sur le circuit élite, quoi. Quel conseil tu donnerais à la petite Maë de 15 ans qui est encore... qui ne se doute pas de tout ça, qui n'a pas encore traversé cette période compliquée ?
Je ne lui donnerais même pas un conseil. Je lui dirais juste « You got this ». Crois en toi. Vas-y. Tu as toutes les ressources nécessaires pour arriver et faire de ton rêve une réalité. Ce sera dur. Il y aura des moments où tu vas penser que ce sera impossible, mais tu vas toujours te relever. Donc crois en toi, crois en ce talent que tu as. N'abandonne pas. C'est tout ce que je lui dirais.
Ok. Avec le recul, peut-être, qu'est-ce que tu ferais différemment pour pas revivre cette situation de crise que tu as vécue, qui à un moment a été douloureuse ? On en parlait juste avant d'enregistrer, mais c'est aussi le début d'une nouvelle histoire dans laquelle, moi, j'ai l'impression que tu te retrouves, tu te redécouvres. La première question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que cette situation de crise, elle est nécessaire à un moment ou à un autre ? Et si elle est tant bien même, on se dit qu'on a envie d'éviter cette situation de crise, comment est-ce que tu l'éviterais avec le recul ?
Je ne l'éviterais pas, parce que si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je l'éviterais pas parce que j'ai appris beaucoup. Je l'éviterai pas parce que ça m'a permis de mettre un miroir en face de moi et de me poser les bonnes questions, de me recentrer, d'apprendre à me connaître, de savoir qui j'étais, de me découvrir. Parce que je me suis rendu compte que, bien que quand j'étais plus jeune, oui, il y avait les médailles, il y avait les résultats, je le faisais pour l'honneur de la fédération, pour mes parents, pour la France, pour machin, pour un tel et une telle, et moi, dans l'histoire. Pourquoi je le faisais ? À la base, j'ai fait ça parce que je voulais m'amuser. Et au plus ça allait... Au moins, je le faisais pour le fun, mais au plus, je le faisais parce qu'il fallait gagner. Il faut que je gagne, il faut que je gagne. Quand je gagnais pas, c'est pas une mutilation psychologique. Je me repassais les trucs, et pourquoi. Et je m'enfonçais dans le travail. Et au final, il n'y avait plus cette sensation de « mais kiffe, on n'a qu'une vie. Combien de temps encore je vais pouvoir faire du patin ? Si je kiffe pas maintenant, quand je ne vais pas kiffer une fois que j'aurai 70 ans et que je pourrai plus patiner. C'est pas ça le but. » Donc je changerai rien du tout, parce que ça fait mal, c'est sûr. Mais c'est ce qui fait de moi la personne et la guerrière aussi que je suis aujourd'hui. Parce que si je me bats, je sais pourquoi je me bats. Ça m'a donné beaucoup d'idées aussi pour pouvoir aider peut-être très sûrement les générations futures et même les générations actuelles, pourquoi pas. Ça m'a donné des idées parce que je veux révolutionner le monde du sport, tout simplement. Le management sportif tel qu'on le voit aujourd'hui. Je veux révolutionner la vie des athlètes de haut niveau parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas normal qu'il y ait encore une majorité des athlètes qui soient en situation de précarité, qu'on se donne corps et âme pour représenter notre pays et le faire rayonner, représenter notre sport, et au final, très souvent, ne pas avoir la reconnaissance qu'on devrait avoir, ne pas être considéré comme un métier, parce que finalement, on passe des heures à polir et à parfaire cette aptitude, cet art ou ce sport. Ça dure quelques secondes et puis après, limite, on oublie qu'on a sacrifié tout ce temps et après, on se retrouve livré des fois à nous-mêmes et on est là, bon, Qu'est-ce que je fais après? Qui suis-je? Il faut que je me redécouvre. C'est compliqué, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Quelles sont mes capacités, mes compétences? Il y a tellement de choses à faire et j'ai tellement appris grâce à ces moments-là que je ne les changerais pour rien au monde. Après, bon, si je devais le revivre demain, il faut me laisser un peu le temps de respirer quand même. mais ouais, non, je ne changerais pas.
Dans cette crise identitaire, justement, où tu te perds, parce qu'effectivement, de ce que je comprends, tu associes ton identité à tes résultats, quelles ont été les étapes de la reconstruction et ouais, quelles sont les étapes un peu?
Alors, les étapes, pour moi, ça a commencé après Pyeongchang 2018. Il faut savoir qu'à Pyeongchang, je fais 19e, mais pour moi, sa 19e place, elle a une plus grande symbolique encore que ma 10e place de Sochi. Alors que dans les journaux, bon, pour eux, c'était nul, nanana. Ok, pas de souci. J'ai vu des commentaires de personnes qui disent ouais, bon, si c'était pour faire 19e, t'aurais pu rester chez toi. J'ai dit mais vous savez pas d'où je viens. Moi, la dernière fois que j'étais sur la scène mondiale, c'était en 2016. En 2016, je me prenais la claque de ma vie parce que je passais pas la qualification pour le programme long. Alors que l'année d'avant, j'étais 10e. Pour la place, la personne qui a ramené la place pour Pyeongchang 2018, c'est pas moi. Parce que moi, je suis pas allée au monde. Et que la qualification, elle se fait au monde. C'était l'autre française. Elle partait avec un avantage concurrentiel énormissime. Pour tout le monde, c'était elle qui allait aux Jeux Olympiques. Donc moi, la saison 2017-2018, je dis, je retournerai aux Jeux Olympiques et je ferai la médaille, la finale des Jeux Olympiques. Je m'en fous de la place. Moi, je veux être en finale parce que psychologiquement, pour moi, ça voulait dire beaucoup de choses d'être en finale. Jusqu'au championnat d'Europe, alors que j'étais la première sur quasiment toutes les compétitions du début de saison, jusqu'au championnat d'Europe qui sont 2 semaines avant les Jeux, on n'avait pas le nom de la personne qui allait être la représentante française aux Jeux Olympiques. J'avais gagné le championnat de France, donc techniquement, ça aurait dû être moi. On a attendu les championnats d'Europe. Psychologiquement, imaginez-vous, 2 semaines avant les Jeux Olympiques, vous ne savez pas que vous y allez, vous devez tout donner jusqu'à la dernière seconde, à chaque compétition, parce que vous êtes tout le temps mis en confrontation. C'était long, c'était fastidieux, mais je l'ai fait. Donc j'arrive à Pyeongchang, honnêtement, j'étais épuisée, mais j'ai juste profité. Et j'ai dit, je veux passer le programme court. Après avoir passé le programme court, j'ai dit, honnêtement, je m'en fiche. Je veux juste kiffer, parce que je suis là, sur la scène mondiale, j'atteins mon objectif. Mais après ça, je me suis dit, ok, je veux changer mon environnement, je veux être une patineuse différente, je veux être une personne différente, je veux avoir un impact différent. Comment j'arrive à atteindre cette sphère de haute performance que j'ai pu approcher, j'ai vu une esquisse, et ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Qu'est-ce qui me manque? Donc là, je me suis assise et j'ai analysé. J'ai regardé toutes les personnes autour de moi, les personnes qui avaient évolué, qui avaient fait des résultats. J'ai analysé leur parcours. J'ai dit, ok, donc elles, je vois qu'ils ont fait ça, ils sont partis là, ils ont tel coach qui les encadre, ils ont eu ces résultats-là, ils ont eu des médailles, ils ont fait une 5e place, ok, j'aime bien. Je me suis remise en question, j'ai dit, ok, qu'est-ce que moi je pourrais changer? Mais là encore, c'était pas un processus très en profondeur, c'était juste, ok, quel environnement je peux mettre en place? Et puis, c'est aussi passé par, je voulais me rapprocher de Dieu. Donc, pour moi, la croyance a été quelque chose de très important à cette période-là. Et je voulais le faire parce que je voulais comprendre pourquoi je croyais. Parce qu'en général, on est dans une famille qui a une croyance religieuse. Et donc, du coup, bah, on va nous emmener à l'église ou on va nous faire le ramadan si on est musulman, etc. Mais des fois, on n'a pas forcément cette éducation où on nous dit, bah voilà, ça, c'est les principes. Essaye de comprendre pourquoi toi, tu crois. Qu'est-ce que ça t'apporte, finalement? Est-ce que c'est quelque chose en lequel tu crois vraiment ou est-ce que c'est parce que tes parents t'ont dit d'y croire? Donc moi, j'étais plus dans cette démarche de je veux comprendre pourquoi je crois en Dieu et qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie. Donc, j'ai voulu, en fait, maintenant, je comprends que j'ai voulu prendre mon indépendance par rapport à tous ces attachements que j'avais, que ce soit par rapport à mes parents, que ce soit par rapport à la fédération, que ce soit par rapport au coach que j'avais. J'ai voulu devenir la maître de mon projet. Donc c'est pour ça que j'ai créé un écosystème qui, moi, me parlait et qui, je savais, pouvait me permettre d'aller là où je voulais aller. La croyance en Dieu, c'est parce que je voulais me réapproprier mes croyances, savoir redéfinir mes valeurs, savoir quelles sont mes valeurs, pourquoi je crois et pourquoi je le fais. Et dire que voilà, je suis ma propre personne et c'est pas parce qu'on m'a dit de le faire que je le fais, mais parce que j'ai envie de le faire que je le fais. Donc j'étais un peu dans cette démarche-là, mais sans réellement savoir que finalement c'était ça que je recherchais. Et aussi je recherchais à savoir qui j'étais réellement, parce que du coup ça voulait dire que je m'affirmais pour une fois et que je faisais pas parce qu'on m'a dit de faire, parce que c'est ce que les autres, c'est le cheminement d'une championne, parce qu'il faut qu'elle fasse ça. J'ai commencé à porter mes cheveux naturels sur la glace, chose qu'on ne voit absolument pas, surtout dans un sport comme le patinage, où on est, les cheveux bien tirés, machin, vidéo chouette. Moi, j'arrive avec mes cheveux afro naturels qui sont très rebelles quand ils le veulent.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Avant, tu faisais quoi? Tu te lissais les cheveux
ou je défrisais mes cheveux.
Je défrisais mes cheveux.
Okay. Je portais aussi des perruques de temps en temps, mais plus défriser les cheveux pour avoir les cheveux bien plaqués.
Parce que c'est vrai que dans la culture afro, c'est quand même très très courant.
Ouais, c'est très 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 courant. Mais moi, c'était plus le défrisage. Et le défrisage, bon, faut savoir que c'est des produits chimiques, etc. C'est pas ce qu'il y a le mieux non plus pour soi. Donc ouais, j'ai une phase un peu de rébellion, si je puis dire, où je voulais m'affirmer moi en tant que Maë, qui je suis moi. Donc il y a eu cette phase là. Et après, en 2021, mars 2021...
Comment ils perçoivent les autres la phase de rébellion?
Bah pour eux, c'est, je pense qu'ils se disent « Ouais, elle s'affirme en tant que Maï. » Mais en fait, c'était pas agressif, c'était progressif. Je dis « Bon, bah, moi j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien avoir un peu plus de pouvoir, entre guillemets, dans la direction que va prendre la création artistique de mes programmes, par exemple. J'aimerais bien être plus impliqué dans le processus de créatif. » Où je m'impliquais tout simplement plus dans le processus créatif. Je donnais un peu plus de... Enfin, j'avais un peu plus de voix dans la façon dont on gérait les entraînements. De dire, ah, j'aimerais bien faire ça. Là, j'ai besoin de repos. Là, j'ai besoin de faire ci. Donc, j'ai essayé de devenir un peu le maître de ma carrière de plus en plus. Mais ça s'est fait progressivement, en fait.
Comment c'est reçu
bien.
Par ton entourage?
Bien, parce que j'ai réussi à choisir aussi des personnes qui, je sais, sont ouvertes à ce type d'input. Et ma famille, ils l'ont bien pris parce qu'ils me voient... grandir, évoluer. Après, c'est un peu plus compliqué parce que je prends mon indépendance aussi en tant que femme. Donc, c'est dur aussi de laisser son enfant devenir éclore et devenir la personne qu'il doit être. Mais c'est aussi le processus de la vie.
Bien sûr.
Donc, ouais, il y a la phase d'adaptation quand même. Voilà. Il y a quand même ça. Et après, on voit l'évolution et quand ils voient les résultats aussi, que ça paye, ils se disent « Ok, c'est ce qu'il faut faire. » Je la laisse. Et puis, petit à petit, l'indépendance, elle se prend comme ça. Et puis vient mars 2021, c'est championnat du monde qualification olympique pour Pékin 2022. Et il s'avère qu'une semaine avant d'aller au championnat du monde, la cellule de haute performance veut que je fasse un test d'effort qui aurait pu être fait bien après, mais bon, on me le fait faire avant. Et je commence à avoir une petite boule dans le tendon. En tant qu'athlète de haut niveau, tant qu'on peut marcher, même si on peut ramper... je peux faire le patin, enfin, je peux faire mon programme, ça passe. Donc moi, j'ai dit, je suis partie voir le kiné, il m'a replacé, j'en ai parlé à la cellule médicale, on a fait les soins qu'il fallait, donc ça a tenu jusqu'au jour du programme court. Programme court, premier saut, tout se passe bien, deuxième saut, je pique, ça y est, c'est fini. Donc moi, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je me dis, je peux pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, c'est moins 5 points. Moins 5 points sur un programme court, c'est énorme, ça va jouer la qualification olympique, c'est pas possible. Là, je vais pour aller chercher la qualification olympique, pas moyen que je m'arrête. Donc moi, je veux continuer, mais bon, mon pied m'a dit, ma coco, tu vas aller nulle part. Donc, je vais voir le juge arbitre. Il me dit, est-ce que tu veux 5 minutes pour continuer? Je dis, malheureusement, là, c'est pas possible. Donc, on me fait sortir. Et là, le docteur, on enlève le patin, il touche, il dit, bon, rupture de tendon d'Achille, ta saison est finie, Pékin, oublie. À ce moment-là, honnêtement, je suis pas plus perturbée que ça. Je le prends très bien, je me dis, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et c'est mon corps qui m'a dit stop. Parce que moi, j'allais pas m'arrêter. Même si j'étais dans un processus de, voilà, je me réappropriais les choses, j'étais toujours dans ce processus, fonce, continue. Et j'arrivais pas à réellement écouter mon corps. Et mon corps, il a dit, tu veux pas m'écouter, moi je vais te faire m'écouter. Et donc, rupture de tendon d'Achille, processus de, faut réapprendre à marcher, faut réapprendre à patiner. Et c'est là où l'humidité m'a frappé en plein visage. Et c'est là où j'ai dû m'asseoir devant un miroir et me poser les réelles questions. Est-ce que je veux continuer à patiner? Pourquoi je veux patiner? Quel est le but pour moi de patiner? Est-ce que j'ai toujours cette passion? Ou est-ce que ça y est, c'est fini, on passe à autre chose? Si je continue à patiner, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et si je veux le faire, avec qui? À mes côtés. Quelles sont les choses, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Mais surtout, quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les choses sur lesquelles je vais devoir travailler? En gros, j'ai fait une analyse. En fait, j'ai pris toutes mes connaissances de l'école par rapport au management et au business, marketing, et j'ai fait un business plan. Donc, j'ai fait une analyse de marché, j'ai analysé la situation actuelle. J'ai pris mes forces, mes faiblesses, les opportunités et les menaces. J'ai tout analysé. les ressources dont je vais avoir besoin, donc financières, humaines, structures matérielles, tout ça. Et j'ai vu tout le chemin qu'il y avait à parcourir. Et à partir de là, j'ai dit, j'ai besoin de me connaître, j'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin de me développer, d'avoir un storytelling, de savoir qu'est-ce qui va être mon élément différenciant, quelle va être ma réelle force qui va faire en sorte que je vais me différencier des autres finalement. Et comment je vais le développer, comment je vais réussir à atteindre cette sphère de haute performance en prenant en compte tous ces éléments. Et à partir de là, c'est là que la nouvelle Maë est réellement apparue. Parce que du coup, ça a été une grande introspection. Se poser, comprendre tous ces sentiments aussi. Et comprendre aussi. Parce que finalement, j'étais en mode, on fonce tout le temps. Et je ne me suis jamais pris le temps d'accueillir tous les sentiments que je pouvais avoir. Quand il y avait de la tristesse parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je l'enfouissais. J'ai pleuré 2 minutes, je l'enfouis, on continue. Parce que là, il faut se remettre au travail, il faut retourner sur la piste et faut carburer comme ça. La prochaine compétition, je leur prouve que je suis là. Et en fait, je n'ai jamais pris le temps d'analyser ce qui se passait. Et bah, du coup, j'ai dû analyser une dizaine d'années. Ça prend un petit peu de temps quand même. Et surtout, bah, ça a réouvert peut-être des blessures assez profondes. Ça a posé quelques questionnements, ça m'a forcé à me mettre en face de certaines choses que je ne voulais pas voir, à voir certains traits de caractère qui font que bah, ça m'empêche peut-être d'atteindre cette sphère de haute performance. Je me suis mise à nu, finalement. Et j'ai compris beaucoup de choses, j'ai reconstruit beaucoup de choses, j'ai soigné aussi beaucoup de choses. J'ai dû mettre beaucoup de pansements, parce que recoudre aussi beaucoup de choses. Mais éventuellement, ça m'a permis de me reconstruire tel que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui me permet de continuer d'avancer aussi dans ce que je fais. Tout ce processus, bah, c'est 5 ans, ouais, 5 ans, et c'est pas encore fini. Là, j'en sors, là. Il y a eu des phases où vraiment je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il y avait plein de choses, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Donc du coup, j'ai pris le temps. Là où avant je prenais pas le temps, bah, il y a des fois où on m'a pas vu sur les réseaux sociaux pendant 1 mois, 2 mois, 4 semaines. C'est pas mon problème. J'ai dit, je prends le temps pour moi. J'essaie de prendre le temps de vivre le moment présent, d'être entouré des personnes et des choses dont j'ai besoin. Et après, on verra. Mais je m'étais plus... La priorité, c'était plus de prouver, c'était de comprendre. Comme ça, je pourrais revenir de manière plus saine et plus pérenne aussi.
C'est important de se connaître, quand même. Au moins pour donner du sens à l'après, quoi.
C'est ça. Mais c'est pas la chose qu'on fait en premier quand on est athlète de niveau. Parce que notre but, c'est d'aller chercher les médailles. Et à partir du moment où on performe, on va nous mettre dans une case. Le champion, la championne. L'espoir de demain. Le futur champion, la future championne. Mmh. Et nous, on s'accroche à ça. Et c'est dur de s'en détacher pour réellement se construire et avoir sa propre voix, sa propre image, sa propre personne.
T'as fait des exercices où, je sais pas, il y a eu une méthode, un livre quelque chose qu'on pourrait partager là aux auditeurs, aux auditrices qui soit à bien aider justement à faire ce travail-là un peu.
Bah, j'ai pas de livre en particulier. En tout cas, j'ai plus le nom en tête. Je sais que le livre qui m'a permis de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, c'était le livre d'une amie à moi qui s'appelle Emily Adams. Et en gros, elle nous a parlé de son parcours personnel. Et dans son livre, il y avait des petits exercices qui te forçaient vraiment à mettre le miroir en face de ton visage et te poser les réelles questions pour comprendre d'où ces blocages venaient ou d'où tes peurs venaient, etc. Et je l'ai lu quand j'ai fait un voyage au Mexique. Et en fait, ça a cliqué. J'ai dit, ah ok, donc en fait, tout ce qui m'est arrivé, je comprends. Donc ça m'a permis d'avoir ça. Ça, c'était pour que je comprenne si... Enfin, en fait, tout s'est aligné, tout a fait sens. Et même dans tous les projets que j'entreprenais, j'ai fait, ok, je comprenais pas pourquoi j'étais attirée vers cette voie, la voie créative, la voie marketing, et pourquoi je voulais faire ça, et pourquoi je veux aider les gens. Mais en fait, c'est parce que dans mon parcours, j'ai vécu telle et telle chose qui font que j'ai envie de retranscrire pour pas que les gens, forcément, vivent le même parcours, ou pour... offrir un environnement qui soit différent, qui soit unique, qui soit rafraîchissant. Et c'est aussi toutes les moments de vie. J'ai pris le temps d'écouter des podcasts. The Diary of a CEO, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Analyser le parcours de Dwayne The Rock Johnson, c'est une personne que j'aime beaucoup. J'aime bien le côté entrepreneur. Kobe Bryant, pas son âme, mais c'est une personne aussi, j'ai beaucoup aimé analyser ce qu'il a fait. Je regarde un peu tout le monde, que ce soit le monde du sport, que ce soit le monde de l'entrepreneuriat, voir et comprendre le parcours des gens, voir d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés là. Même l'analyse de marque, finalement, parce qu'au côté marketing, on analyse beaucoup les marques, voir comment elles évoluent, comment elles pivotent, comment... Tout ça, c'est des choses dont je me sers aussi pour ma vie personnelle. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à me construire tel que je suis aujourd'hui.
Ok. Bah écoute, très cool, en tout cas. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ?
Que j'étais une perfectionniste et que ça me bloquait énormément, en fait. Parce que je m'interdisais de rater. Sauf que quand on rate, c'est là où on apprend. Et moi, je m'interdisais de rater. Parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais faible. Et si je suis faible, c'est pas bon, parce que les autres vont me voir faible. Alors qu'en fait, bah, rien à voir. Si je rate, c'est parce que j'ai essayé. Et si je rate, c'est parce que du coup, il y a quelque chose à modifier. Et je préfère rater aux entraînements pour modifier, pour qu'à la compétition, je vise l'excellence. Alors que moi, avant, j'étais dans un processus de... À l'entraînement, il faut que je sois parfaite. À la compétition, il faut que je sois parfaite. Et quand je tombais à l'entraînement, en général, je commençais à paniquer. Alors qu'il n'y avait aucune raison de paniquer parce que j'ai fait le travail en amont, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Et maintenant, je me dis, ok, je suis tombée, analyse. Ta courbe, elle était peut-être mauvaise. Tu as été un peu rapide dans le rythme. Sers-toi-en pour le programme. Parce que ça, c'est le blueprint pour que dans le programme, ce soit parfait. On s'en fout de l'entraînement, finalement. J'ai appris que ouais, j'étais perfectionniste, que j'avais peur du non. J'avais peur d'être rejetée. La peur du rejet et la peur du non. Que je suis une personne très sensible, très créative aussi, que je vis beaucoup par le regard des autres. J'ai un gros ego, finalement. Je pensais que j'étais une personne humble, mais je le suis, mais sur certains aspects, il y a quand même une part d'ego, et que ça, il faut apprendre à le mettre de côté. Parce qu'on se dit, ouais, c'est que dans la partie sportive, mais en fait, je me suis rendu compte que même dans la partie vie personnelle ou vie professionnelle, ça peut jouer. Des fois, c'est bien d'avoir un peu d'ego, parce que c'est ce qui va peut-être être le moteur qui va nous permettre de faire les choses que les gens pensent qu'on ne peut pas faire. Mais ça peut aussi nous empêcher d'atteindre certains niveaux, certaines choses qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas cette part de « Oui, mais moi, je peux le faire seul. Oui, mais moi, je vais y arriver, seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Du coup, je ne sais pas demander de l'aide. Du moins, je ne savais pas demander de l'aide parce que ça voulait dire être faible. Et moi, je ne veux pas être faible. Mais en fait, non, ça veut pas dire qu'on est faible. C'est juste de l'intelligence que de demander de l'aide à des personnes qui ont les compétences, qui ont le savoir, qui ont les capacités, les ressources nécessaires pour nous emmener là où on veut aller. Et j'ai aussi appris que j'avais une belle vision, qu'il fallait juste que je croie en moi pour y arriver.
C'est important. Trop bien. C'est marrant que tu aies parlé de Kobe Bryant parce que moi, il y a une des citations les plus... qui m'a le plus marqué de Kobe, tu vois, c'est... Je ne l'ai plus exactement en anglais, mais là, dans la traduction française, c'est... Il dit, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de titres, c'est vrai que c'était des très 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 bons moments, mais la plus belle chose que j'ai eue dans la vie, c'est d'être sur les parquets tous les jours à 5h du matin, quoi. Et de l'avoir choisi. C'est d'avoir choisi un truc complètement contre-intuitif que 99,9% des gens ne feraient pas. Et de prendre toujours ce plaisir, quoi, à s'entraîner, être dans le process, quoi. Et ne jamais s'identifier au résultat. Et ça, c'est très dur, je trouve.
C'est très dur parce qu'on nous identifie par rapport au résultat. Donc, arriver à se détacher de ça, c'est le plus gros du travail, il est fait. Quand on arrive à se détacher du résultat, après, ça nous atteint plus autant. Ouais. Et justement, comme il dit, on profite du process. Et on est heureux de se lever à 4h, 5h, s'il faut se lever. Ouais, tous les jours, je me lève à 5h ou 6h. Les gens me disent, mais pourquoi ? Parce que ça me plaît. C'est pas parce qu'on m'a contraint d'eux, c'est parce que j'ai envie. Et là, on n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans les mêmes synergies. Et je rebondis sur ce qu'il dit, je suis totalement d'accord. Quand on l'a choisi, ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est le plus beau des choix, quoi. Je vois beaucoup de gens, tu sais, qui tapent sur les morning routines, qui tapent sur le fait que justement, quand tu as des routines, tu t'en parles et tu essayes de les expliquer. Et tu as beaucoup de gens, tu sais, qui rejettent un peu ça, tu vois, qui me disent « Pourquoi tu veux que je me lève à 5h du mat ? Pourquoi tu veux que j'ai un carnet et tout ?» Mais en fait, c'est justement qu'il n'y a pas cette notion de plaisir, tu vois. Si tu ne te fais pas, si tu ne rentres pas dans cette discipline, dans cet un peu de contrainte, dans ce process, tu trouves du plaisir et donc forcément, tu en parles. Et ceux qui ne cessent s'abstraignent pas à ça, n'y voient pas le plaisir, tu vois. Donc, forcément, ça, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour partir aux US ?
J'avais besoin de changement. J'avais besoin d'atteindre une autre sphère. Et je savais qu'en France, il n'y avait pas forcément les ressources humaines, structurelles dont j'avais besoin. Aux États-Unis, bah, la plupart des pistes, il y a au moins deux patinoires. On a l'accès à la glace de 6h à 17h. tous les jours quasiment. Ouais, au moins du lundi au vendredi. Après, samedi, dimanche, on a quand même accès à la glace. Ça veut dire qu'il y a des heures où je peux patiner toute seule. Il y a des heures où je peux être avec mes coachs en cours particulier. On fait du travail hors glace, vraiment spécifique. C'est plus du travail en one-on-one, mais il y a aussi beaucoup de travail en autonomie. Le mindset, il est différent. Le mindset est très différent. La culture du sport aussi est très différente aux États-Unis par rapport à la France. Et parce que j'ai vu aussi les résultats sur ma meilleure amie, qui est devenue médaillée européenne, mondiale, top 5 aux Jeux Olympiques. J'ai vu le changement, l'évolution.
Qui est-ce ?
Vanessa James. Et du coup...
Qui est de quelle nationalité ?
Alors, elle a patiné pour la France.
Okay,
elle est française.
D'accord.
Elle est française.
Ce que je me disais. Ouais. Okay.
Mais elle a patiné aussi pour la Grande-Bretagne et elle a fini sa carrière en patinant pour le Canada.
D'accord.
C'est une enfant du monde. Mais ouais, elle a patiné pour la France. Elle a patiné pour la France et elle est française. J'ai vu son évolution. J'ai eu l'occasion d'être chez elle à un moment et de voir ce qu'elle faisait behind the scenes. Parce que ouais, nous, on voit ce qui se passe à la patinoire, c'est cool. Hein. Mais j'ai vu le temps qu'elle passait à étudier ses programmes, à analyser des nouveaux éléments qu'elle pourrait mettre, à passer du temps sur la partie créative, quelles nouvelles entrées elle pouvait mettre en place, analyser peut-être des yogis, des contorsionnistes, voir ce qu'ils faisaient, comment elle pouvait l'incrémenter à la partie sport. J'ai vu le temps qu'elle passait, la minutie qu'elle passait pour le choix des musiques, le temps, les moments forts, la composition des programmes, le travail qu'elle a fait aussi en dehors, d'aller prendre une coach de GRS pour travailler sur sa souplesse. Dieu seul sait à quel point elle souffrait. Quand je vous dis elle souffrait, elle souffrait. Et elle était plus jeune, quand même jeune, enfin, tout est relatif. Mais dans le patin, en tout cas, elle avait dépassé la trentaine. Donc, se mettre, c'est comme Kobe l'a dit, c'est une volonté de sa part de se mettre dans... de se mettre dans ce processus pour pouvoir atteindre un certain objectif. Et en ayant vu ça, j'ai dit « Ah ok, moi je pensais que j'étais dans la haute performance, mais alors, j'étais loin, 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 loin. » Et du coup, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit « Ok, j'ai compris ce que je vais faire pour atteindre la haute performance. » Bon bah, ça va être compliqué, ça va être désagréable.
Elle était en France à ce moment-là ?
Non, elle était aux États-Unis, là où je suis partie. Et du coup, j'ai dit « Ok, moi j'aime bien ce que je vois et je veux des résultats, allons-y. »
Ok. Pour les auditeurs, du coup, à quel moment c'est ?
Ça a été après les Jeux de 2018. Donc, en juin 2018, j'ai décidé d'aller en Floride.
Ils mettent pas la pression sur les résultats depuis ? Si ?
Si, ils mettent la pression, mais moi, je suis détachée de tout ça. Et je sais que le processus, c'est un long processus, qu'il faut des moyens, des ressources que j'ai pas forcément. Et j'arrive quand même à me maintenir sans avoir tout ce dont j'ai besoin encore. Je suis encore en train de construire mon écosystème, mais j'ai un plan précis en tête. Donc c'est pour ça que moi, je suis pas inquiète. Je ne me presse pas parce qu'ils vont me mettre la pression. Je dis, si c'est pour avoir des résultats sur le court terme, ok. Mais moi, c'est pas mon but.
Ok. Je voulais t'amener un petit peu sur le sujet aussi, tu vois, de l'extra sportif. Parce que tu le développes de plus en plus. Tu prends la parole dessus. Et bravo, franchement, c'est cool ce que tu fais. Quelle est la différence de point de vue par rapport à ça, tu vois, en France ? Parce qu'en France, il y a encore quelques années, tu vois, on te disait, tiens, si tu fais des études, on va pas te prendre dans l'équipe, ou on te disait des bêtises du genre, t'occupes pas de ton argent, tu l'investiras après, on te disait des bêtises. excusez-moi si vous nous entendez et que vous avez dit ces phrases-là et que vous le pensez encore, excusez-moi, mais c'est pas juste. En tout cas, je pense que ça sert pas au bien-être des athlètes. Quel est leur point de vue, eux, par rapport à tout ça, par rapport à l'extra-sportif ?
L'extra-sportif, il est de plus en plus démocratisé. Après, la façon dont c'est fait, je suis pas trop fan, parce que j'ai encore un peu l'impression que c'est soit on est dans le cercle de haute performance, soit on développe l'extra-sportif, mais en gros, ça veut dire que tu es proche de la porte de sortie de ta carrière sportive.
Ok. C'est ta vision à toi ou c'est des choses que tu as observées ?
Non, c'est ce que... en fait, j'ai fait mon mémoire de master sur la dichotomie qu'on trouve entre la haute performance et le management sportif. Et en analysant un peu la structuration des choses, je me suis rendu compte que dans le visuel qui est fait, oui, vraiment, il y a le chemin haute performance, où là, on est plus focus sur la performance, etc. Et le parcours athlète international, enfin, compétition internationale, mais l'extra-sportif, en gros, c'est plus vers reconversion du sportif, préparer l'après, mais pas vraiment tu peux développer ton extra-sportif tout en visant la haute performance. En tout cas,
c'est pas possible.
Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu, quand j'ai analysé en tout cas la structuration. Et c'est justement la narrative que j'aimerais bien changer. Mmh. Parce que pour moi, après, il y a des athlètes qui trouvent leur équilibre en étant juste sportif et en développant l'extra-sportif après. C'est très bien aussi. Tant que ça vient de l'athlète et que c'est son choix, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve un parfait équilibre en ayant à la fois la partie sportive et à la fois mon projet extra-sportif. Donc ça a été les études pendant jusqu'à juin 2021, quand j'ai eu mon master. Et là, je développe la partie entrepreneuriale, la partie marketing, développement de l'image de marque, savoir monétiser son image de marque, savoir construire une image de marque et d'autres projets qui sont attenants au sport management. Pour moi, c'est important d'avoir les deux parce que si à l'entraînement, ça ne va pas un jour, au moins j'ai un outlet qui me permet de déverser ma frustration sur autre chose, de penser à autre chose aussi, de m'épanouir différemment, de côtoyer des milieux différents aussi. Parce que c'est vrai que quand on reste beaucoup dans le milieu du sport, des fois, on voit toujours le même univers, le même milieu. Et ça fait du bien aussi des fois d'avoir cette bulle où on explore d'autres choses, on découvre d'autres gens, d'autres profils et ça fait du bien.
Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi... je suis d'accord avec toi sur le fait que ça soit propre à chacun. Certains athlètes, tu vois, ont pas spécialement la nécessité, tu vois, de s'ouvrir à d'autres choses et sont très très bien, tu vois, dans ce parcours-là. Cependant, tu vois, je pense que il y a toujours un effet bénéfique long terme. Alors, c'est pas toujours du court terme, mais à s'ouvrir à d'autres choses, tu vois, à ouvrir ton esprit et à être pluridisciplinaire, quoi.
Bien sûr. Aujourd'hui, je développe mon image de marque. Je veux construire quelque chose qui pourra aider les athlètes en général à développer leur image de marque. Mmh. Et la première chose que je dis, c'est, vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'opportunités et des opportunités bien plus lucratives que vous ne le pensez. Mmh. Après, ça va dépendre de savoir comment vous arrivez à vous vendre. Qui êtes-vous réellement? Mmh. Et c'est là où se connaître, c'est important parce que on n'a pas besoin de parler que de l'athlète. Oui, c'est sûr, c'est la façon dont on vous a connu en premier. Mais quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous anime en dehors de votre sport? Parce que vous, avant d'être un athlète, vous êtes un être humain, vous êtes une femme, vous êtes un homme. Vous avez d'autres choses dans la vie qui vous animent, je pense. Après, pour la plupart des gens, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a d'autres choses qui les animent. Et si on arrive à avoir ces valeurs-là, à savoir qui vous êtes réellement, c'est là où ça sera intéressant. C'est là où on pourra développer quelque chose de fort, même dans votre storytelling, même dans les valeurs et le contenu que les gens vont créer. Parce que les gens vont apprendre à vous connaître, vous, dans votre entièreté, pas juste l'athlète. Et là, il y a un intérêt même pour le long terme. Parce qu'après, les gens, la transition, ça sera très facile. Ils connaîtront déjà votre univers. Ils vont peut-être même vous soutenir dans votre transition beaucoup plus facilement que si vous leur avez montré « je suis athlète ». Puis du jour au lendemain, vous parlez du journalisme. Ils n'ont jamais entendu parler, ils ne savent même pas pourquoi. Il y en a qui vont vous suivre, forcément. Il y en a d'autres qui vont déconnecter parce qu'ils ne vont pas comprendre la transition. Et pour moi, c'est important de s'ouvrir et de montrer son univers aussi.
Ouais, et puis même au-delà de ça, je pense quand même qu'il y a un truc qui est sous-côté et que beaucoup d'athlètes ont du mal à le comprendre, c'est qu'il y a une dichotomie entre l'athlète de haut niveau et le commun des mortels. Moi, je commence à bien vous connaître et je me rends compte que vous êtes des êtres humains comme tout le monde, que avec des qualités, des défauts, des points forts, des points faibles, des rêves, des cauchemars, enfin tu vois, plein de trucs. Mais souvent, on peut idéaliser un peu l'athlète. Et le fait de communiquer sur ses passions, ses valeurs, ses hobbies, enfin tout ce que tu as dit, ça permet vraiment d'humaniser, si tu veux, et de descendre un peu de son piédestal. Mais par contre, de créer énormément d'empathie, de liens, et de se connecter en fait avec les gens qui gèrent avec toi.
Le but, c'est pour moi en tout cas en tant qu'athlète, c'est de créer une communauté qui pourra nous suivre dans notre parcours finalement, dans les hauts, dans les bas, dans le bon, dans le moins bon, des gens qui vont apprendre à nous connaître, ce qu'on a envie de partager. Après, ils sont pas obligés de partager tout parce qu'on a tous notre petit jardin secret, mais les choses avec lesquelles ils sont à l'aise. Oui, ça permet d'humaniser totalement. Et puis les athlètes aussi, ça leur permet de... Ça nous permet de redescendre de ce piédestal. Parce que c'est vrai qu'être mis comme ça, en hauteur, on est fait de chair et d'os. Hein. Comme tout le monde, on tombe malade. Il y a des jours où c'est compliqué, on est gronchon, on grognon, whatever. Mais on est des êtres humains, comme tu as dit. Et des fois, c'est dur pour les gens de comprendre ça. Parce qu'ils nous voient, en fait, dans notre... dans notre sphère de haute performance, dans notre bulle d'excellence. Donc, on doit être irréprochable, on n'a pas le droit à l'erreur. Et en fait, non.
Tu sais qu'il y a eu des études, je pourrais te retrouver, je pense que ça t'intéressera, mais sur justement des contenus qui sont créés. Et en fait, quand une personnalité célèbre, tu vois, dit « Coucou, trop fort, j'ai été champion olympique », par exemple, elle va recevoir moins d'engagement sur ses posts que typiquement un contenu qu'elle va créer où elle montre vraiment sa vulnérabilité, tu vois. Et parce que, ouais, montrer sa vulnérabilité, en fait, c'est hyper dur. On est tous vulnérables. On n'est pas tous champions olympiques. On peut essayer de s'imaginer de se mettre à ta place quand t'es en finale des Jeux, tu vois. Je peux essayer de te mettre dans ta peau, toi, Maë, tu vois, et de me dire « Ah, ça doit être cool », mais j'ai jamais vécu. Alors que si tu me dis « Bah écoute, là, je sais plus qui je suis perdu dans la vie, je me battais pour un truc, mais c'est pas moi », bah là, en fait, je pense que tu parles à tout le monde.
On a tous eu un moment dans notre vie où, plus ou moins long, après ça dépend, hein. On a tous eu un moment où on s'est posé, on s'est dit « Mais qui suis-je et qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais ?» Ou alors on s'est lancé dans un projet, on fait « Mais je suis pas si sûr finalement. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux pas continuer ?» Et ouais, je me dis qu'on crée du lien et de la connexion. Parce que c'est... Tout le monde a vécu ça, finalement.
Ouais. Ouais, ouais, non mais exactement. Je te pose une question qui pique, du coup. Je vois, j'ai ton profil Instagram sous les yeux. Je vois 133 000 abonnés. Ça aide à mettre du beurre dans les épinards ou ça vous déporte?
Alors, le petit check, ça vous déporte. Au moins, quand on veut essayer d'aller contacter certaines marques ou co-caisses, quand ils voient la blue mark, en général, il y a au moins une réponse, même si c'est négatif, au moins il y a une réponse.
C'est vrai que moi, je le vois, quand je contacte les athlètes.
Ça n'a rien à voir.
Je n'ai pas payé, je tiens à préciser. on est de l'ancienne génération où il a fallu bûcher pour l'avoir. Mais je l'ai eu quoi, au mois de février cette année, mars, je crois. Et j'ai vu que ça change quelque chose.
Ça change quelque chose. Je suis en train de travailler sur mon image de marque, justement, pour aller monétiser les réseaux. Mais je veux aussi créer un espace safe space, et aussi faire comprendre à ma communauté que c'est pas, je vais pas leur vendre juste pour leur vendre. Si je fais un partenariat, si je m'allie avec une marque, un service ou un produit, c'est parce que soit j'ai testé, soit c'est quelque chose que j'utilisais déjà, soit c'est quelque chose que j'ai découvert et qui me sert personnellement dans ma vie de tous les jours. Et je veux qu'ils comprennent que, comme la plupart des personnes que je suis, qui font du placement de produits ou qui ont des collaborations, moi, je leur fais confiance parce que je sais que c'est des choses qu'ils utilisent ou des produits en quels ils croient. Et du coup, ils nous transmettent ce en quoi ils croient. Et finalement, c'est du marketing un peu 3.0, 4.0. C'est juste que voilà, c'est une plateforme différente, c'est une manière différente. Mais je veux créer ce lien de confiance avec ma communauté. Donc, c'est pour ça que je procède à un full rebranding. Là, aujourd'hui, j'ai 133 000 abonnés, j'en avais 137 000. Mais j'en ai perdu 4 000. Parce que peut-être c'est des gens avec qui je ne m'alignais plus, qui mon contenu, ça ne leur parlait pas. Et c'est OK. Même s'il faut que je redescende à moins de 100 000, je m'en fous en fait. Tant que si demain il y a 10 000 personnes qui connectent avec mon contenu, qu'il n'y a que 10 000 personnes, je préfère 10 000 personnes qui connectent avec mon contenu que 133 000 ou 137 000 qui finalement n'en ont pas grand-chose à faire. Et je me dis que quand j'aurai réussi à créer vraiment cette safe space et cet engagement avec ma communauté... Là, on pourra parler de « j'arrive à mettre du beurre dans mes épinards ». Pour l'instant, il y a le beurre d'un côté et les épinards de l'autre, et ils me regardent. mais j'espère très prochainement pouvoir dire que au moins de manière... je sais que tous les mois, je peux payer mes factures tranquillement parce que les partenariats que j'ai pu avoir, ça me permet de... Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, tout le process que je fais depuis maintenant 2 ans, là, on va y arriver, là, je pense.
Ok. D'où il vient l'argent, d'ailleurs, quand on fait du quand tu fais du patinage?
Merci maman, merci papa. Beaucoup d'investissements de leur part, surtout sur ces dernières années, parce que je n'étais plus sur les listes de sportifs de niveau. Donc ça veut dire que les subventions ou quoi, qu'est-ce que j'aurais pu prétendre, je n'en ai pas eu. La recherche de sponsors. Il y a le groupe Pierre Val notamment qui me soutient. J'ai beaucoup de sponsors qui m'offrent du matériel. Donc je pense à EDA, John Wilson, Aert, Chic Sport.
C'est des marques de lame, c'est des marques de...
Alors, il y en a qui sont spécifiques, ouais. Pas costume, mais lame et patins. Okay. EDA, c'est les patins. Lame, c'est John Wilson. Chic Sport et Aert, c'est de l'équipementier sportswear premium qui me permet de m'habiller en dehors et sur la glace pour faire la partie workout. Je sais que j'en oublie. Il y en a encore...
Ça te permet pas de manger, tout ça?
Non, non, non. Bah, j'ai mes parents. Le groupe Pierre Val, il m'accompagne un petit peu financièrement. Ça prend pas du tout en compte toute ma saison, mais au moins ça me permet de, bah, de pouvoir me débrouiller. Il y a beaucoup de débrouillardises. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire des partenariats stratégiques qui pourraient me permettre de, bah, de m'aider avec tout ça. Si ce n'est pas une aide financière, peut-être voir en ressources et matériel, qu'est-ce qu'ils pourraient me donner qui pourrait bah, diminuer mon budget ou les choses que j'ai à avancer et du coup voir avec le budget que j'ai. Et puis ça passe par... Bah, des fois, j'ai eu des quelques partenariats rémunérés qui me permettent de survivre. Hein. Ce n'est même pas vivre, ça me permet de payer voilà, les factures et donner le reste aux impôts. Voilà. Mais bon, au moins, ça me permet d'avancer. Donc c'est beaucoup de volonté, hein, parce que des jours, des mois, c'est pas facile. Mais je suis bien entourée, et j'ai de la chance d'avoir des gens qui croient en moi aussi, et qui croient en mon projet. Des gens qui sont aptes à faire des sacrifices, quelques sacrifices aussi, pour pouvoir me permettre de réaliser ce rêve. Donc,
Vu que tu t'intéresses à plein de choses, j'avais envie de te poser la question. C'est hyper dur à poser comme question, mais s'il n'y avait pas le patinage, demain je te dis interdit de faire du patinage, t'as plus le droit. L'autorité Barthélémy
plus droit de faire du patin.
Plus droit de faire du patin. Qu'est-ce que tu fais?
Je fais du marketing, ce que je fais déjà. Je me tourne vers le marketing et le management sportif.
Tu veux manager des athlètes?
Je veux créer une plateforme, un écosystème qui permettra de faciliter le management des athlètes et qui sera basé sur les besoins des athlètes et pas les athlètes qui vont s'adapter à un système qui n'est pas forcément fait pour eux. Parce que c'est le constat que j'ai pu faire ces dernières années, toutes ces années où j'ai pratiqué, c'est que les systèmes ne sont pas forcément faits pour l'évolution des athlètes. C'est les athlètes qui doivent s'adapter. Et des fois, c'est compliqué. On n'a pas forcément l'accès à des ressources matérielles, humaines, financières, comme j'ai pu le dire. Donc, comprendre les besoins fondamentaux et mettre en place des systèmes qui leur permettront d'avoir accès à ces besoins, à ces ressources. Ça va passer par l'utilisation des réseaux sociaux. Comment leur construire une image de marque, comment leur construire une communauté, comment les aider dans leur parcours professionnel, comment leur créer un mindset aussi, qui soit dans un peu un mindset entrepreneurial où ils sont maîtres de leur projet, donc ils sont chefs de projet. Ton projet ressemble à quoi? Quelles sont tes ambitions sur le court, moyen, long terme? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver? Donc c'est un peu ça l'idée.
Je trouve pas que c'est hyper dur à faire dans le sens où... Chaque sport est un peu unique, chaque personne est un peu unique, et les besoins sont différents.
Si, c'est un challenge, mais justement, c'est ça la beauté du truc, c'est que comment on trouve les solutions pour pouvoir créer une plateforme qui puisse servir à tous les sports et à tous les athlètes, mais qui en même temps soit personnalisable pour que ça corresponde à chaque athlète et chaque sport. C'est mon défi de toute une vie.
Il y a des choses à faire.
Oui.
Ok. Du coup, ouais, ce serait une plateforme avec du contenu où tu peux accompagner les athlètes.
Et après, il y a la partie marketing où là, je vais m'amuser parce que forcément, c'est mon terrain de jeu. J'adore trouver des stratégies pour permettre aux athlètes de trouver les financements nécessaires pour les aider, par exemple. Mettre en place des campagnes participatives, mettre en place des réseaux sociaux qui soient optimisés. Comment on communique autour d'un athlète pour lui créer une belle image de marque. Donc, il y a plein de choses à faire.
Mais tu vois, ça, je rebondis un peu par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les sportifs qui quittent la haute performance et qui rentrent dans l'après-carrière, tu vois. J'ai pas été sportif de haut niveau. Donc, je peux pas forcément toujours donner mon opinion. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que une des grosses difficultés que doivent résoudre les athlètes de haut niveau, c'est que leur métier n'est pas corrélé à leur source de revenus. Tes résultats. C'est pas parce que tu as des résultats, c'est pas parce que t'es... Ah et si t'es championne olympique, t'auras 50 000 euros, je crois, un truc comme ça, 40, 50 000. Comme beaucoup, des fois, bah, tu le mets de côté ou tu t'achètes un appart, tu vois. Mais l'essentiel de tes revenus va être lié effectivement de tes partenariats, des marques qui vont te soutenir et qui ne vont... Bien sûr que c'est bien d'avoir des résultats, mais bizarrement, une marque, elle préférera toujours que t'as 500 000 followers sur Instagram plutôt que tu sois champion du monde. Et je pense que si demain... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du curling. Mais si demain, il y a un Français ou une Française qui est championne du monde de curling, et que demain, il y a une Française ou un Français qui a 500 000 followers sur Instagram et qui fait du curling, je peux parier, je peux parier sur celui qui est financièrement, en tout cas, aura de plus de preuves de concept pour s'en sortir, quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper dur à appréhender pour les athlètes. C'est vraiment un challenge à relever. Et en même temps, des fois, j'ai l'impression que les institutions ne s'en rendent pas compte.
Je pense qu'en fait, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. de vraiment nourrir, enfin de travailler sur ça. Parce que moi, c'est le constat que j'ai fait. J'ai vu des deals, des contrats qui peuvent être signés, des chiffres. J'ai dit, mais attends, ça, on peut gagner ça. Enfin, c'est incroyable. Ouais, je regarde, parce que sur ce profil-là, ils ont 500 000 followers, donc on leur donne tant. Je fais, donc nous, on sacrifie toute une vie, et des fois, les gens ne savent même pas qui on est, et puis surtout, il n'y a pas le... Derrière, il n'y a rien, en fait. Même si on fait un top 10, bah, top 10, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut faire un top 6 pour avoir une rémunération, et auquel cas, bah, on n'a rien. Alors que s'il y avait cette partie-là aussi qui entre en jeu, peut-être qu'en ayant fait ce top 10, plus le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça pourrait aider à générer un système qui permettrait à l'athlète au moins de vivre et plus de survivre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, en fait, il y a un gros travail à faire finalement sur ça. Parce que chaque athlète a quelque chose de différent à porter. Chaque personne a de toute façon quelque chose de différent à porter. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a une quantité de marques incroyables qui sont là et qui seraient prêtes à financer ça. Mais après, c'est la façon dont on l'approche, la façon dont on l'amène. Et après, il faut arriver à changer le mindset des athlètes par rapport à ça. Et ça, c'est pas une mince affaire.
ouais, non, mais tu vois, il y en a plein. Les athlètes, ils préfèrent. Il y en a plein qui te disent, que les réseaux sociaux, ça les fait chier, le business, ça les fait chier. Rencontrer des partenaires, parfois, ça les embête. Qui préfèrent s'entraîner. Et c'est pour ça qu'ils sont athlètes.
C'est ça. Ils me disent, moi, je suis athlète, je suis pas machin. Je fais, ouais, mais ça pourrait ouvrir beaucoup de portes. Mmh. Et je fais, si on survit aujourd'hui, peut-être qu'en investissant un petit peu aussi dans ça, pas forcément beaucoup, mais un petit peu, tu peux vivre, voire même très bien vivre. Et avoir des opportunités, même pour la suite, pour l'après, ça va couler de source, ça va juste venir à toi.
Mais il n'y a pas encore beaucoup d'exemples, je trouve.
En France, non.
Des athlètes qui sont arrivés peut-être à un niveau top national ou international, tu vois, sans jamais monter sur la boîte olympique, tu vois, mais qui terminent millionnaires. Et j'aimerais en voir, tu vois. Et c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un post LinkedIn là-dessus, tu vois. Je suis en train d'écrire un post LinkedIn, notamment sur la musculation, tu vois, et dans lequel, moi, je considère que la musculation, c'est un des sports qui a fait le plus de gens millionnaires, tu vois. Hormis peut-être le football, hormis le football, mais parce que plein ont fait ventes de programmes, YouTube, affiliation avec des marques de compléments, tout ça, tout ça. Et pourtant, on dénigre beaucoup ce sport, quoi. Tu vois, et je pense que, ouais, il manque en France encore, tu vois, des rôles modèles, tu vois. Et là où, effectivement, dans la musculation, il y en a beaucoup, t'as des Jean-Claude Van Damme, des Arnold Schwarzenegger, des Bruce Lee, qui sont des gens qui sont devenus acteurs, entrepreneurs, investisseurs et tout. Même président de la Californie, quoi. Non, c'est quoi son
Il était sénateur, je crois. Sénateur. Si j'ai pas de bêtises.
Mais tu vois, il en manque, tu vois, des rôles modèles comme ça, tu vois.
Mais ça, c'est très, très... Enfin, c'est le mindset américain, après. Aux États-Unis, c'est pas du tout rare de voir des athlètes. Je vais prendre l'exemple de Sha'Carri Richardson. Elle fait de l'athlétisme. Un diamant brut en athlétisme. Elle a raté d'aller aux Jeux Olympiques à cause d'un contrôle antidopage. Mais ça n'empêche qu'elle a, je pense... Si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle a le million de followers sur les réseaux. Et elle a réussi à se créer une image de marque autour de ça et à s'en servir pour avoir négocié certains contrats, revenir sur la scène et être suivie par une grande communauté. Et je pense que si elle, demain, elle fait un meet and greet, il y aura des millions de gens qui vont venir parce qu'ils veulent... Enfin, ils ont suivi son histoire, ils ont suivi son évolution, sa transformation, etc. Et je pense qu'aujourd'hui... je vais pas m'avancer parce que je suis pas dans son compte en banque, mais je pense qu'elle... Elle est plutôt pas mal par rapport à ça. Il y a une joueuse de basket, Angel Reese. C'est pas forcément la plus forte, mais c'est une des joueuses de basket actuellement qui est la plus connue parce que lors d'un match, elle a montré son doigt avec la bague parce qu'il y avait une autre joueuse qui l'avait un peu cherchée au match d'avant et que sur le match d'après, ils ont gagné. Et là, elle surfe sur les contrats. Enfin, elle a signé je sais pas combien de contrats. Elle fait partie de l'équipe américaine. Enfin, elle a eu plein d'opportunités qui se sont ouvertes grâce à ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, si on arrive à démocratiser un peu plus ça et qu'il y a des exemples aussi qui ouvrent la voie, peut-être que...
En France, j'en vois un quand même. Je vois... Tu connais Cédric Doumbé ?
Non.
Le combattant ?
Son nom me dit quelque chose.
Il est camerounais, me semble.
Oui.
Enfin, il est franco-camerounais.
Attends, c'est UFC ?
Alors, à l'origine, lui, il vient du kickboxing. Donc, tu vois, d'un sport de combat qui est beaucoup moins coté que l'UFC. Et donc, il est devenu quand même une légende du kickboxing. Il a quand même été 7 fois 7 ou 8 fois champion au Glory, qui est un peu la ligue du kickboxing. Mais tu vois, c'est une ligue qui est en Hollande, tu vois. C'est pas les États-Unis, c'est pas... tu vois, dans les salles de kickboxing, si t'as 4000 personnes, c'est grand max. C'est pas à l'UFC où tu pourrais remplir Bercy ou même l'équivalent du Stade de France, je pense, tu vois. Mais du coup, lui, il a switché, enfin, il essaye de passer sur l'UFC, il a fait ses premiers combats en MMA, mais uniquement avec les réseaux, quoi. Maintenant, il a 500 000 abonnés, uniquement avec ça, quoi. Je pense après, il est invité partout maintenant, tu vois, en vidéo. Mais il n'y a pas beaucoup, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il en manque. Voilà. Bon, on vous fait un appel. Si vous êtes athlète, que vous avez envie de bosser avec des gens sérieux, de faire une stratégie de contenu, je suis sûr que Maë peut s'occuper de vous. Moi, je réponds à tous les athlètes. Je sais que j'ai beaucoup d'athlètes qui me demandent. Certains, je peux prendre le temps. Tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je prends toujours le temps. Ceux que je connais pas encore, bah, ça sera pour une prochaine fois. Mais il y a même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Je reprends un petit peu mes questions. Je regarde si on a tout fait un peu. Mais c'est quoi ton prochain objectif?
Le gros objectif?
Le gros objectif.
Milano Cortina 2026.
Ok.
Parce que là, on parle beaucoup de Paris 2024, ce que j'adore. Mais les sports d'hiver, nous, c'est Milan 2026. C'est juste à côté, donc n'hésitez pas. Voilà.
Mais bien sûr, ouais, grave.
Paris 2024.
Pour une fois que c'est pas dans un pays.
Pour une fois que c'est pas loin.
Ouais.
Parce que les trois derniers, là, c'était Russie, Corée du Sud et Chine. Donc,
et
là,
avant, c'était Vancouver en plus.
Avant, c'était Vancouver. C'était le Canada.
Et Aventurin.
Aventurin. Donc l'Italie, ils font la petite boucle.
Ouais.
Mais là, on va à Milan.
Ouais, donc là, ça peut être l'occasion de venir voir. C'est cool.
C'est ça. L'objectif sportif, le gros objectif sportif, c'est Milan. Professionnellement parlant, pour Paris 2024, je suis actuellement en train de tourner un documentaire où on suit justement 5 athlètes. Ça s'appelle À nos champions. Et okay. Le but de ce documentaire, c'est de redéfinir la notion de champion. Donc tout ce dont on a parlé là. Parce que dans la pensée commune, un champion, une championne, c'est la personne qui ramène la médaille. Et nous, on veut montrer que peu importe. Bon, alors, notre souhait, c'est que tous les athlètes qu'on suit aillent aux Jeux Olympiques. Mais on veut aussi montrer que peu importe, en fait, le résultat, c'est le cheminement qui fait de ces athlètes des champions, des championnes. Et que c'est de la résilience, de l'abnégation, des sacrifices, des joies, des peines, des hauts, des bas. Et c'est ça, réellement, être un champion. Donc, notre objectif, c'est ça, redéfinir la notion de champion. Et je suis directrice marketing sur ce documentaire. Donc, j'endosse une casquette différente. Et ça va être un projet à court terme qu'on est en train de préparer et qui, j'espère, plaira.
Ok.
Qui j'espère, plaira. Donc, voilà.
Tu peux dire qui le produit ou...
Pour l'instant, je ne peux pas trop dire. Okay. Parce qu'il veut, il préfère ne pas le dire. Mais ouais, je te donnerai l'info.
Ça marche. Eh bien, écoute, c'est une très bonne chose pour clôturer un petit peu ça. J'ai une dernière question, du coup, que je pose aux invités. C'est de savoir, justement, à qui est-ce que tu transmettrais le flambeau pour un épisode. Ça peut être pour parler de why, ça peut être pour parler d'état d'esprit, ça peut être pour parler des États-Unis, de patinage, de mindset, d'entrepreneuriat, tout ce que tu veux.
Une personne. J'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais là, je dirais Clarisse Agbeninou, parce que c'est une femme incroyable, un mental hors du commun, qui nous montre que tout est possible, en fait. Quand elle a la vision, elle sait où elle va, elle sait c'est quoi son objectif, et elle fonce. Maman, sportive, entrepreneur aussi, je pense. Waouh.
Waouh. Bah écoute, je vais réécrire un petit email à Nadia, je pense que j'avais déjà tenté ma chance, mais carrément, effectivement j'aimerais beaucoup la recevoir en tout cas. Et ça fait plaisir de voir, enfin, tous les modèles ne se valent pas. Et je trouve qu'elle, elle dégage dans tout ce que tu as dit, tu vois, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses extrêmement positives, beaucoup de messages qui sont très inspirants quoi.
Il y a, mais en fait, j'allais dire, il y a Clarisse qui est comme ça, il y a Renelle aussi, mais je sais que Renelle, elle est déjà venue, si je dis pas de bêtises.
Ouais, elle est déjà venue. Mais elle reviendra.
Et Renelle, j'adore la suivre parce que c'est tout ce qu'on a dit. Elle est elle, en fait. Elle cherche pas. Et ça, c'est quelque chose de précieux, je trouve, chez les athlètes. Et chez Clarisse, on retrouve ça. La simplicité, elle est humble, elle est. Ouais, c'est une femme d'exception et j'aimerais beaucoup en apprendre plus, encore plus. Parce qu'il y en a des articles, il y en a des choses qui ont été dites, mais c'est toujours intéressant d'avoir un différent point de vue et ben, de savoir que peut-être un jour elle sera au micro d'extraterriens, qui sait.
Mais c'est sûr qu'elle le sera. La seule question, c'est quand. Moi, je me dis,
c'est ça.
Il n'y a aucun doute.
C'est ça.
si tu nous entends, Clarisse. C'était très prétentieux ce que j'ai dit. Je ne lançais pas un défi. Merci infiniment, Maë.
Merci à toi de m'avoir accueilli, Bart.
T'as passé un bon moment ?
C'était génial.
Mais écoute, je suis ravi. À bientôt.
À très bientôt.
Quand le studio sera terminé.
Yes.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.